Les maudits sont sans importance. Les mots sont sans importance.
Bonjour, la diseuse de mots. Aujourd'hui, je vous lis un dernier extrait du roman de Carole Martinez, Du domaine des murmures. La semaine prochaine, nous commencerons un nouveau roman. À toi qui écoutes, je veux raconter les événements comme je les ai vécus, sans juger la jeune fille que j'ai été. Je suis restée 4 jours dans le noir de ma tombe. Certaines de mes sœurs recluses demeuraient dans l'obscurité et le silence jusqu'à leur mort. 4 jours sans nourriture, sans eau, sans compagnie, sans rien pour m'exciter les sens. 4 jours hors du temps, à boire mes larmes. Et mon petit esprit s'est déplié comme coquelicot. À force de foi, de méditation, de jeûne et de solitude, il m'a semblé qu'un chemin s'était ouvert dans l'obscurité. Une voie qu'empruntait la cohorte des morts, et à leur suite, j'ai touché l'autre rive. J'y ai vu les âmes se débattre dans le feu de la purgation. J'ai partagé leur géhenne et me suis convaincue que ma prière les soulageait, qu'elle tenait les démons à distance, qu'elle les arrachait à leurs griffes. Puis j'ai été ravie à ce séjour odieux et élevé au-dessus des nuées. Christ m'a enlacée et m'a menée toute vive dans sa lumière inouïe. Il m'a permis de goûter le cœur des anges, dont nos chants n'étaient que pâles échos. Mon âme a résonné au son des cymbales de la jubilation bien plus longtemps que ma chair n'avait vibré en entendant notre pauvre cloche de Sainte Agnès. Ma foi m'a offert des visions d'une beauté inégalable, et ce temps a passé si vite que je n'ai pas cru Jeanne quand elle est venue taper au volet pour m'avertir que je pouvais manger désormais, que le jeûne était terminé. Elle m'a tiré de mon extase, frappant de toutes ses forces contre le bois, me disant qu'il importait de rester modéré et de nettoyer ma cellule pour que la vermine ne s'y installât pas, qu'il était inutile de mettre mon corps trop vite à trop rude épreuve. Mes membres ne me répondaient plus. Ma chair avait été abandonnée trop longtemps par l'esprit. J'ai finalement réussi à me traîner jusqu'à la fenestrelle. J'ai trouvé la force d'ouvrir mon volet et le jour m'a giflé. Depuis ce trou de lumière, Jeanne m'a tendu un petit bol de bouillon entre les barreaux. J'ai été surprise de voir à quel point ma faiblesse était grande. Même en tenant l'étroit récipient à deux mains, je ne parvenais pas à empêcher le liquide de trembler. J'ai bu lentement le potage brûlant, le sentant descendre en mon corps à chaque nouvelle gorgée. Après avoir vidé mon vase, mon ami est revenu avec de la paille fraîche. J'ai remarqué ses yeux rougis, et lui ai murmuré d'une voix éraillée, encore empreinte de silence. « Tu as pleuré ? Votre père veut plus me donner à Pierre. Il dit qu'il ne me laissera pas partir et refuse ce fort mariage. Il dit que vous aurez besoin de moi dans votre tombe et que ce choix que vous avez fait de vous emmurer m'emmure moi aussi. Qu'il vienne, j'ai à lui parler. Il répète sans cesse que vous êtes crevé. Il a interdit à toute la Ménie de prononcer votre nom. Il menace de couper lui-même les langues qui causeraient de vous et de les avaler crues. Et c'est pas parole en l'air. Rien que ce matin, il a fait tuer et plumer votre beau faucon qu'on lui servira au souper. On murmure que la pauvre bête lui a rapporté je ne sais quel ruban trouvé dans les fougères et sur lequel votre nom était brodé. Ce qui est sûr, c'est qu'il accuse l'oiseau d'avoir parlé, prononcé le mot interdit. Alors vous pensez bien que je n'irai pas le trouver dans sa folie pour lui demander quoi que ce soit de votre part. S'il dévore cet oiseau qu'il admirait tant, J'ose pas imaginer ce qu'il me ferait subir à moi, dont il n'a cure. Et puis au fond, je sais bien qu'il n'a pas tort et que Dieu sans doute me préférerait à vos côtés. Mais ma douce Esclarmonde, voici qu'il n'est plus temps. Nous avons, Pierre et moi, pris un peu d'avance sur nos noces, et mes fleurs ne viennent plus depuis plusieurs lunes. J'avais pourtant été prudente et enduit un sureau de mes menstrues à la fin de l'automne, comme on nous dit de faire pour ne pas être grosse. Et aujourd'hui, c'est tout de même cet arbuste qui fleurit et moi qui fructifie. Dieu me punit d'avoir pas su attendre. Croyez-vous que le fruit de ma faute sera aussi laid que mon péché et qu'on rira alentour de la difformité de notre petit pour me punir d'avoir été mauvaise? Combien d'enfants naîtraient difformes si Dieu devait marquer tous ceux conçus hors mariage, ou pendant l'impureté des femmes, ou encore durant les jours interdits? Seuls les hommes sont assez cruels pour rendre les mères responsables des tares de leurs enfants. Et puis Dieu sait ce qu'il fait. Il n'aurait pas envoyé Pierre bâtir cette chapelle s'il en avait voulu autrement. En vérité, il te presse de quitter cet endroit. Dès ton départ, ta jeune sœur Yvette prendra soin de moi. Elle me donnera ma gamelle, mon eau et de la paille pour ma sellette. Elle est simplette, mais je la sais diligente et douce. Lothaire est-il toujours notre hôte? Oui. Il erre, l'âme en peine. Il marche seul en forêt et ne sait plus le chemin de ses terres. Lothaire a beaucoup changé depuis votre clôture. Il ne cherche plus noise aux filles et se parle à lui-même. Eh bien, puisque mon père ne veut pas venir sur la tombe de sa fille, va donc quérir Lothaire. Dis-lui qu'Esclarmonde le demande. En ce temps, on se déplaçait par milliers pour approcher les reliques de Sainte-Foy ou de Marie-Madeleine, dont le corps avait été inventé à Vézelay. Cette dernière sainte, qui connaissait le Christ, devenait le symbole de la rédemption. Entre les enfers et le paradis, un troisième lieu se dessinait dont elle tenait l'entrée. Car les baptisés, membres d'un même corps, pouvaient, grâce à la communion des saints, bénéficier des sacrifices, des prières, des souffrances de quelques âmes sublimes et volontaires. Saints et mystiques avaient l'oreille de Dieu, et ses élus retenaient son bras, rachetaient les pécheurs. Nul n'osait les fâcher. Je savais que Lothaire obéirait à ma voix désormais si puissante. Il a suivi Jeanne docilement et est venu à moi le regard bas, comme on va communier. Son visage m'a paru amaigri. Ses traits tirés exprimaient une tristesse qui m'a émue. Il avait tant gagné en humilité qu'il ne se ressemblait plus qu'à peine. J'ai beaucoup prié pour toi, Lothaire, dans ma nouvelle demeure. Je sais ce que ma décision t'a coûté, mais si le Christ m'a choisi, c'est aussi qu'il désirait te mettre à l'épreuve, c'est qu'il savait le chemin de ton cœur. Sens-tu en toi-même comme tu viens de changer? Tu es transfiguré, tu resplendis maintenant, et ne ressembles plus au garçon cruel et vaniteux que j'avais en horreur. Il te fallait cette blessure-là pour te décrasser l'âme. Je tourne mon cœur vers le Seigneur et j'éloigne mes yeux de ton visage. Un seul regard raviverait ma rage et ma douleur. Le diable n'est jamais loin, qui me murmure sa petite chanson à l'oreille. Je veux que tu ailles trouver mon père et que tu exiges qu'il te cède comme servante ma sœur de lait, celle qu'on nomme Jeanne, en dédommagement de l'épouse que tu n'as pas eue. Il ne saura te refuser cette faveur. Il arrachera Jeanne à son fief, mais tu ne la garderas pas. Tu affranchiras cette bonne fille pour qu'elle puisse se marier à Pierre, le tailleur, et tu les laisseras partir, libres, pour Paris, où l'on construit une cathédrale. Je suis très honorée que tu mettes ainsi à l'épreuve et me confies cette fille, sachant l'usage que j'ai fait des femmes jusqu'à aujourd'hui. Je te le répète, tu as changé, Lothaire. Il faudrait être aveugle pour ne pas remarquer cette lumière que tu portes à présent sur le front. C'est ma douleur que je porte, ce feu qui me ronge le cœur depuis que tu m'as échappé, et cette flamme réclame toujours la part qui lui a été volée. Oh, Lothaire, n'est pas mauvais qui veut, et même si tu l'étais encore, que pourrais-tu me faire maintenant? Où je suis, nul ne peut plus m'atteindre. Tu n'es pas mon épouse, tu seras donc madame, comme le disent les chansons. Amour ne s'épanouit pas dans le mariage. Il m'a foudroyée en cette église où tu m'as refusée. Tu devrais te choisir une dame plus épaisse et à la robe plus facile à trousser. Allez, laisse-moi à présent, tu as affaire. Et surtout, ne prononce pas mon nom quand tu seras face à mon père, si tu ne veux pas finir au saloir. Et Lothaire, obéissant à ma parole de femme, est allé trouver mon père, qui, avec l'accord de l'archevêque, lui a donné Jeanne sans rechigner. Lothaire a dégagé ma sœur de lait de toute servitude. À ma demande, les noces de Jeanne et de Pierre ont été célébrées, non loin de moi, sur le pavis de ma bonne chapelle de Sainte Agnès. Il n'a pas plu ce matin-là, et Benoît a pu leur joindre les mains sous le soleil. Jeanne est partie pour Paris à pied avec son maigre baluchon et un ventre déjà rond qu'elle m'avait fait palper depuis la fenestrelle en riant. Nous étions séparés pour de bon. Elle, en branle de par le monde, ferait des routes sa demeure. Elle traverserait le pays, mesurerait la création à l'aune de ses foulées. Elle vivrait sous le ciel, tel un aubin, travaillerait en chemin. S'arrêtant où Pierre et son père trouveraient de l'ouvrage, elle irait au-delà du grand calvaire qui marquait la fin de cette terre et barrait l'horizon. Sa marche n'aurait plus d'autre borne que sa fatigue et que celle de ses compagnons et de leurs mules. Elle enflerait la vague des marcheurs, ce peuple nomade composé d'errants, de fugitifs, de jongleurs, de compagnons et de pèlerins. Ceux qui traînaient leur croix, ceux qui coupaient leurs liens, ceux qui marchaient leur rédemption. Et moi, je resterai en ma cellule, contemplant les univers que le Christ me donnerait à voir, immobile, tout à mon voyage vertical, à mon ascension par la prière, et chacun saurait où me trouver, comme on sait où trouver un moulin ou une tombe. Je serais une parole vivante, livrée au vent et déjà envolée, et moi, un mot lourd gravé dans la pierre. Son amitié et sa tendresse me manqueraient tant. Aux marches du palais, aux marches du palais, y a une tant belle fille, l'on l'a, y a une tant belle fille. Elle a tant d'amoureux, elle a tant d'amoureux, qu'elle ne sait lequel prendre, l'on l'a, qu'elle ne sait lequel prendre. La belle, si tu voulais, la belle, si tu voulais, nous dormirions ensemble, l'on l'a, nous dormirions ensemble. Dans un grand lit carré, dans un grand lit carré, orné de toiles blanches, l'on l'a, orné de toiles blanches. Vous pouvez me retrouver tous les mardis à 9h45 sur Jet FM ou en podcast. Laissez-moi vos impressions, vos commentaires, peut-être vos suggestions aussi, pourquoi pas, à propos de ma chronique, en m'écrivant à ladiseusedemots@gmail.com. LADYSEUSEDEMOTS, tout attaché, @gmail.com. À bientôt.
Les mots sont importants.